genèveactive.ch.
Sylvie de Brackeller, vous mettez en scène Chatroom de l'Irlandais Enda Walsh. Quels sont les éléments qui vous ont attiré dans ce texte qui explore à la fois la question du rapport avec les univers virtuels de six adolescents et aussi celle du suicide et la manière peut-être d'y mener?
Ben justement, c'est ces deux aspects-là. Donc d'abord, cet univers que moi je connais pas bien, parce que c'est pas ma génération, de chat. Voilà, moi j'ai une fille qui a 12 ans et ça fait déjà plusieurs années qu'elle passe plusieurs heures par jour sur MSN et compagnie. Donc c'est vrai que c'est c'est un monde où il n'y a pas de contrôle parental, de contrôle adulte, ou très très peu. Ça m'intéressait comme univers. Puis effectivement, pas uniquement le suicide, mais la manipulation. Enfin, comment on peut se manipuler, comment ce nouveau média ne crée pas, pour moi ça ne crée pas quelque chose qui n'existait pas avant, parce que je pense que la cruauté dans les cours de récréation, ça a toujours existé, mais ça amène à des dérives possibles ou à des nouvelles manières d'opérer auxquelles les adultes doivent être vigilants. Puis moi ça m'intéresse les jeunes, les adolescents en général. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la forme aussi. La forme, c'est-à-dire de trouver comment scéniquement mettre en scène des gens qui sont devant leur ordinateur alors qu'il n'y a pas un seul ordinateur sur la scène.
Parlons de l'écriture d'Enda Walsh, puisque si l'on est sur Twitter, c'est limité à 164 caractères. Les SMS, il y a aussi une limitation. Les chats, pas nécessairement, mais on essaye d'être relativement court avec un certain type de slang ou de jargon spécifique. Qu'est-ce qu'il en était, puisque c'est des scènes véritablement très courtes qu'a conçues Enda Walsh. Vous les fondez, enchaînez d'une certaine manière avec notamment des projections et de la musique techno. Mais qu'est-ce qu'il en était, parce que au niveau de l'exercice que ça peut représenter, puisque vous avez choisi la frontalité pour les comédiens, c'est pas quelque chose nécessairement d'évident pour installer une scène.
Mais moi, ce qui me plaisait aussi dans l'écriture d'Enda Walsh, c'est justement qu'il n'était pas du tout dans le langage court, MSN, dans les abréviations et tout ça. C'est que tous ces adolescents ont un langage extrêmement construit. Donc ça donne une transposition théâtrale déjà. Voilà, ça, je trouvais ça très intéressant. Et Enda Walsh dit aussi que ce sont des adolescents très intelligents, comme tous les adolescents, dit-il d'ailleurs. Donc il parle convenablement, voilà. Alors après, oui, effectivement, il y avait la question de la frontalité ou non. Moi, j'ai été radicale dans le sens, plus que les indications d'Enda Walsh lui-même, en disant, mais ça va être frontal tout le temps, ils ne se regarderont jamais. Sauf dans les interscènes, qui n'existent pas non plus dans le scénario initial, où là, je permets aux comédiens de se regarder, d'avoir un regard. Parce que là, pour moi, on est dans un univers mental. Quel regard on porterait sur l'autre si on en avait l'occasion?
Ici, on a un langage notamment très évolué chez ce BCBG. Quelqu'un qui refuse l'avenir mortifère qu'on lui propose, qui est une des constantes dans le discours adolescent, et puis en même temps, l'opération de décervelage que font des films comme Charlie et la chocolaterie ou la série des Harry Potter. Qu'est-ce qu'il en était par rapport à un discours à 15 ans qui semble ici quand même très évolué par rapport à la conscience adolescente qu'on pourrait présupposer?
Mais pour moi, William, c'est de lui qu'il s'agit, c'est un espèce de surdoué. C'est quelqu'un qui a un QI sûrement beaucoup plus élevé que la moyenne, qui ne sait pas quoi en faire. Et, alors, Enda Walsh ne donne pas d'indication de vestimentaire ou de niveau social. Donc, c'est moi qui ai imaginé que, ils viennent plutôt d'un style collège, une bonne famille. Je voulais vraiment pas tomber dans le cliché du punk dans ces milieux-là aussi, ils sont seuls dans leur chambre et on ne sait pas ce qui se passe. Et probablement, c'est ça aussi la question de la pièce. Est-ce que là, ils sont devant l'anonymat de leur écran? Est-ce qu'ils sont comme ça dans la vie? C'est pas sûr du tout. Peut-être que William se fait taper dessus ailleurs. Ça, on n'en sait rien. Là, ce n'est que dans ces relations virtuelles. Et l'idée aussi, c'est de faire de personne les méchants, les gentils. Donc pendant un moment, on ne sait pas trop qui va manipuler qui. Parce qu'à un moment donné, dans le travail, je disais aux comédiens, on sent trop qui va déjà, qui sont ceux qui vont se faire éjecter, etc. Il ne faut pas le savoir tout de suite, ça va se faire petit à petit. Et je trouve que le discours de William dans la première scène notamment, et plus tard aussi, il n'a pas tort du tout, il ne dit pas du tout n'importe quoi. Après, il outrepasse il s'amuse comme un sale gamin avec quelqu'un de faible et de fragile. Je ne suis pas sûre qu'il avait conscience que ça aurait pu aller jusqu'à quelque chose qui s'apparente au meurtre.
Pour parler de ce personnage alezaissant de Jim, dont on suit d'ailleurs quelque part une forme d'anamnèse, c'est-à-dire le dévoilement de tout son passé par ces deux autres chatters, Jim qu'on aurait peut-être pu croiser dans Elephant de Gus Van Sant, puisqu'effectivement il est assez emblématique avec son t-shirt de Black Sabbath et son côté à la fois gothique, surfeur, blond, décoloré, d'un certain désarroi adolescent. Il y a une manière très belle quand même de rendre son parcours. Comment est-ce que vous avez travaillé justement? Comment est-ce que vous l'avez ressenti déjà, ce personnage qui est un petit peu à la fois le point obscur de la pièce et puis en même temps celui aussi autour duquel tout tourne?
Je voulais absolument pas tomber sur... trouver un comédien sur lequel il y avait déjà marqué tête à claque. Donc je voulais quelqu'un qui soit beau, qui soit touchant, pas le bizuté de service. J'ai auditionné énormément de gens pour trouver les 6 comédiens. Donc j'ai vu environ 120 comédiens. Ce qui m'a touchée chez Julien Vargas, c'est qu'il avait un côté très lumineux en même temps. Et je voulais absolument pas non plus qu'il soit dépressif, suicidaire, absolument. Et effectivement, il s'agit plus d'un désarroi, d'un sentiment d'abandon, d'une fragilité temporaire, même s'il a un passé très lourd. Mais c'est un gamin qui a vraiment une force de vie, qui a envie de vivre. Et on le pousse à aller dans son côté obscur. Et donc, ce que je trouvais très beau dans les auditions, et puis sur lequel j'ai continué à travailler, c'est le côté sympathique qu'il avait aussi, le côté très... Et il a une grande capacité à entrer dans les émotions, mais d'une manière très fine, sans pathos. Voilà, il y a quelque chose de très touchant qui fait qu'on a envie de le prendre dans les bras, mais sans pitié non plus, avec sympathie.
Puis ici, il y a un choix avec une très belle coulée poétique qui se passe comme ça en images, avec des images flottantes qui rappellent justement ces images webcamesques très près du corps, peut-être par téléphone portable aussi, même si c'est une petite caméra, dans laquelle il va retourner vers les terres de son enfance, quelque part qui avait été son drame, puisque son père est parti à un moment donné, il jouait au cow-boy. Qu'est-ce qu'il en était justement sur ce décrochage de la fin, qui n'est pas tout à fait la fin, qui sera réintégré d'une autre manière, mais comment est-ce que vous l'avez conçu ce film ?
Dans la pièce originale, donc il y a un petit moment où il dit qu'il se fait filmer quand il est dans le McDonald's, enfin le Quick. Moi, ce que j'ai voulu, c'était reprendre beaucoup plus tôt. Donc, dès qu'il sort de chez lui, donc j'ai travaillé avec un réalisateur de cinéma. Donc, dès qu'il sort de chez lui, qu'on le voit déambuler dans les rues, qu'on voit tous ses adolescents, etc. Donc, ça, c'est pas dans le scénario de la pièce. Et puis, je l'ai poussé plus loin aussi, parce que là, il se mettait simplement debout sur la table. Et moi, j'avais vraiment envie de ce délire où, une fois, il rejoue le cow-boy comme il a plus pu le faire depuis que son père a disparu. Et donc, j'ai développé cette chose beaucoup plus. Et effectivement, ça donne... et avec techniquement aussi, comme vous dites, ça a été fait avec une petite caméra, comme si c'était... Il se filme lui-même, en fait. Sauf quand il passe sa caméra à la fille.
Sur la mise en corps de l'adolescence, d'une autre manière, à travers le corps, vous avez voulu faire quelque part une dictée de l'intime.
Ces moments dansés ne sont pas dans la pièce. Moi, ce que je voulais, puisque c'est une pièce essentiellement assise, c'est que la pièce soit rythmée par des moments... très physique, dansé, où on retrouve l'énergie comme ça explosive des adolescents. Alors effectivement, moi j'aimais bien le fait de les poser au départ, qu'on les voit se regarder, qu'on les voit effectivement faire apparaître leur personnalité, mais par la danse. C'est vrai que c'est relativement long, mais en même temps les 6 moments sont dans des dynamiques tout à fait différentes, même si c'est sur la même musique. Et puis pour les comédiens aussi, je veux dire, ça leur permet d'entrer dans le jeu et de se déstresser, je dirais, en énergie. Mais en énergie justement pour attaquer après ces scènes assises sans être plombé dans la chaise.
Il y avait une scénographie domotique qui était peut-être induite par le texte. Au départ, on entend quelques bruits de clavier, mais ensuite, chacun de ces adolescents arrive sur une chaise orange, sera entouré d'un rectangle lumineux qui ne sera pas tout le temps là d'ailleurs.
Je voulais pas de ni d'ordinateur, ni d'écran, ni de clavier, ni rien du tout. Les sacs à dos, enfin les sacs, c'est une indication d'Enda Walsh aussi, où il dit qu'ils ont tous un sac et des objets. Donc on a travaillé beaucoup par impro aussi au début, où je leur ai demandé d'amener des choses, des objets et tout. Donc il y en a eu beaucoup, beaucoup plus. Et on a travaillé des choses où ils étaient simplement assis sur une chaise à s'occuper. Et donc on a gardé ce qui était le plus significatif. par rapport à des ados d'aujourd'hui. On a quand même été voir pas mal aussi un petit peu comment se comportaient les adolescents. Moi, je crois qu'un calepin, etc., ça existe toujours quand même dans les sacs. Ils reviennent de l'école aussi. Enfin, je veux dire, donc ils prennent des notes par moment, ou ils dessinent, ou ils mangent des chips.
Le casting, c'est trois adolescents. Du côté des femmes, quels sont ces personnages qui sont à la fois très archétypaux, mais en même temps, c'est aussi un petit peu des blocs de sentiments erratiques. C'est pas monolithique, j'entends. On n'est pas dans Hélène et les garçons, on n'est pas dans ce genre de mensonge par rapport à l'adolescence. On n'est pas non plus dans Plus belle la vie également, où tout est très écrit. Comment vous les avez ressentis, ces trois personnages de jeunes adolescentes?
Je voulais pas être dans le cliché, je voulais pas être dans la caricature, je voulais que les adolescents ne se sentent pas singés ou caricaturés et puissent s'identifier aussi à ces jeunes sur scène. L'écriture des Nawash permettait beaucoup, beaucoup de choses en fait. Je dirais justement, les gens n'existent que par leur discours, donc ils ne sont pas du tout typés. Donc j'ai travaillé évidemment sur des présupposés de moi à la lecture et puis pas mal sur les propositions des comédiennes aussi. Et donc par exemple, ça me semblait intéressant que Laura, qui est entre guillemets la psychologue, soit quelqu'un qui est plus dur dans son apparence, que Eva, qui a un discours beaucoup plus entre guillemets révolutionnaire par moment, mais se laisse piéger elle-même par les trucs de mode et tout ça, alors qu'elle le dénonce. Et alors il y avait la grosse question aussi par exemple sur Émilie, puisqu'elle parle de l'anorexie. Parce qu'au départ, j'ai pas fait la distribution tout de suite. On a aussi essayé des choses. On pouvait aussi se dire qu'Émilie était quelqu'un d'assez fort, par exemple, et qui cache son corps, ou des choses. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Et moi, j'ai pris celles qui me semblaient les plus nuancées, les plus intéressantes, les plus ambiguës.
Serge Tisseron, qui a beaucoup écrit sur le phénomène de l'intimité surexposée, qu'il appelle l'extimité, sur le net, notamment par le biais des blogs multiples, et en même temps en disant qu'est-ce qui s'échange. Alors chez Underwelch, c'est assez riche quand même entre ces adolescents. C'est vrai que si on prend, il y a souvent eu des parodies de Facebook, style, je ne sais pas, à 15h, je mange un yaourt, à 15h15, je gerbe, à 15h30, je me masturbe. Enfin, des choses comme ça, disons, où ce qui s'échange est beaucoup du langage pathique, assez presque du bruit blanc quelque part. Là, il y a d'autres choses, et notamment Serge Tisseron, vous le répétez, Internet est un bal masqué. Sur cette question du jeu des identités, qui est éminemment théâtral d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en était dans cette pièce? Parce que ça crée aussi une certaine impunité quand même.
Oui, ça crée une impunité, effectivement, tout à fait. Mais c'est pour ça que visuellement aussi, j'ai voulu que les apparences physiques des personnages ne correspondent pas forcément à leur discours. Pour qu'on ait justement ce entre guillemets, ce bal masqué, de se dire, tiens, est-ce que dans la vie, ils sont aussi comme ils sont sur le net? Parce qu'on ne sait jamais finalement qui est en face de soi. Juste redire que Nawalsh a écrit cette pièce après une vague de suicides en Irlande, qui a eu aussi en France, en Belgique, en Suisse, et dont on s'est rendu compte par la suite que c'était des gens qui avaient été manipulés sur le net, quoi. Oui, moi je pense qu'effectivement, si on laisse les enfants entre eux, ils peuvent être très vite très cruels, et puis, mais ils ont quand même aussi un surmoi, donc à un moment donné, ils se rendent compte aussi, enfin, il y a il y en a qui ont l'esprit sain, quoi, enfin, S.A.I.N.
Une dernière chose concernant l'adolescence comme l'âge de toutes les métamorphoses, de toutes les crises, qui devient un âge de plus en plus élastique, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de peine à en voir la fin, et c'est vrai que l'adolescent est devenu un produit marketing qui envahit la société adulte. En même temps, dans cette pièce, il y a cette référence, cet âge effectivement où l'identité et l'image de soi est extrêmement brouillée. Qu'est-ce que, selon vous, le propos d'Enda Walsh a apporté pour vous par rapport à ça?
Pour moi, ils reflètent bien dans ce qu'ils disent, eux, un peu leur désarroi face à ces changements, face à, en même temps, se sentir déjà adulte, mais quand même pas. Puis il y a toute une scène où entre surtout Eva et William, mais où ils en parlent, d'avoir l'impression de décevoir ses parents, que quand on est petit, on est aimé, puis après, on n'est plus aimé. Donc, ils se sentent tous forts en désamour, finalement, parce que Eva, comprend qu'elle ne s'entend pas du tout avec sa mère. William, il dit que c'était comme ça, il y a eu un autre bébé. Enfin, donc, ils n'en parlent pas beaucoup, mais il y a quand même des indications très précises sur le fait qu'ils ne se sentent pas compris, pas aimés, qu'ils sont dans une période dont ils ne voient pas le bout, effectivement, et qu'ils auraient envie d'être dans un monde sans adultes, pour la majorité. Parce que, oui, en même temps, le monde adulte ne les attire pas, n'ont pas envie de devenir adultes. et en même temps ils n'aiment pas être là où ils sont. Donc c'est là aussi, pour revenir sur le côté insulaire, où ils aimeraient une société entre eux.